Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition de Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes.
La huitième de la saison.
Huitième?
Oh oui, j'ai un registre.
Huitième des comptes.
Mais pour pas trop répéter la musique.
Pourquoi tu fais pas comme toutes les autres émissions puis nous faire un playlist sur le blog?
Ah, hey, ça serait pas fou, ça. En plus, ça serait pile dans mes cordes, ça m'empêcherait d'écrire des insanités.
Tu pourrais mettre ça aussi sur Radio for All, sur notre... comment on appelle ça déjà? Podcast. Sur notre podcast. Mmh. Donc, toujours est-il que je suis Nicolas en compagnie de...
Janie.
Et de Farouko.
Oui, qui cherche sa musique.
Et de Farouko qui cherche sa musique. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Cette semaine, on a des nouvelles d'Abitibi.
Sur Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des 75 travailleurs de la mine.
Tout pareil. C'est au nord en région.
C'est 75 travailleurs de la mine de Biec de Saint-Honoré, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui refusent de travailler. On donne plus de détails tantôt.
On a aussi, évidemment, un bloc électoral, un retour sur la manifestation de samedi dernier dans Saint-Jean-Baptiste. Et on va vous parler de quelques publications récentes dans la gauche de Québec. Des trucs intéressants qui sont sortis récemment. Donc voilà. Et on a aussi de la musique.
Ah oui.
Parce que Farouko, il faut pas juste tenir un playlist, il fait aussi jouer de la musique.
Il choisit des insanités au lieu des écrits.
Oui. Qu'est-ce que tu vas nous mettre?
Oh, on va y aller avec le collectif René Binamé qui nous chante La dernière tentation du pape.
Oh non, mais une chance, c'est pas le papu, c'est déjà ça de prix.
Ah, il y a un peu plus de texte.
C'est bon, sur CKIA 88.3 à Québec. Toujours sur les ondes de CKIA 88.3, vous écoutez Voix de Fait. Cette semaine, on fait des tests, on va essayer d'upgrader un peu. Non seulement on va avoir du son pris sur place pour vous donner l'impression d'être sur place, mais en plus on va faire des... en fait, je vais essayer de faire un radio canadien de moi.
Oh yeah!
C'est-à-dire, c'est pas complètement monté, hein. C'est des extraits sonores entrecoupés de commentaires journalistiques. Donc voilà, samedi dernier, il y avait une manifestation dans Saint-Jean-Baptiste. On vous en avait parlé la semaine dernière. On vous a parlé aussi depuis le début de la saison, en fait, à plusieurs reprises, même depuis un an, du dossier du Patro Saint-Vincent-de-Paul, de tous les dossiers, en fait, du plan particulier d'urbanisme dans Saint-Jean-Baptiste. Alors voilà, il y a une... une soixantaine de personnes qui ont bravé la pluie et le froid. Et probablement que s'il n'y avait pas plu, s'il n'y avait pas fait froid, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Et donc, voilà ce qu'on en a ramené.
Ni hôtel, ni bureau, on veut des logements sociaux!
Ni hôtel, ni bureau, on veut des logements sociaux!
Ni hôtel, ni bureau, on veut des logements sociaux!
Ni hôtel, ni bureau, on veut des logements sociaux!
Alors voilà, on s'est ramassé avec 60 personnes sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste à 13h. Petit réchauffement thématique sur des slogans d'envergure et puis bon, on prend la rue. Ça s'est fait assez rapidement. Il y avait plusieurs arrêts qui avaient été prévus sur différents thèmes. Malheureusement, les médias n'en ont retenu qu'un, le logement social essentiellement, parce que bon, c'est le thème le plus facile à retenir et le plus vendeur, et c'est celui aussi pour lequel le Compop est le plus reconnu. Mais bon, premier stop sur derrière les stationnements du Delta. Il y a des stationnements municipaux, il y a des stationnements aussi de l'hôtel. Et là, il y a tout un ensemble de projets. C'est vraiment un nœud dans le quartier qui va être l'enjeu de bataille dans les années à venir. On va écouter Mathieu Courcel qui explique le pourquoi du comment.
Nous ici, ce qu'on souhaite au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, c'est deux choses. Qu'on construise des nouvelles coopératives d'habitation sur ces terrains-ci, sur les stationnements de surface qu'on voit ici. On souhaite évidemment que le projet de Place Québec, qui se trouve au bout de la rue là-bas, ne voit pas le jour, parce que ça va entraîner quoi? Un édifice de 12, 15 étages de plus dans le quartier. Qu'est-ce que ça va entraîner?
Des chars!
Beaucoup de chars, beaucoup de transit automobile. Il faut absolument que ça cesse. Ce problème-là va se répercuter sur toutes les rues résidentielles. Le quartier Saint-Jean-Baptiste est entouré de tours, entouré de bureaux. Il faut que ça arrête là. Il ne faut pas que ça aille de l'avant, ces projets-là.
Alors voilà, ensuite de ça, la marche s'est poursuivie jusqu'au coin de D'Aiguillon. Il faut savoir que sur D'Aiguillon, il y a la rue D'Aiguillon, il y a toute une bataille sur la circulation de transit. Bataille qui fait rage depuis 8 ans, notamment autour des parents de l'école Saint-Jean-Baptiste, mais qui a été ranimée il y a 3 ans. Il y a eu plusieurs manifestations, plusieurs blocages de rue. Et il y avait Valérie Borde du comité Action D'Aiguillon, qui est un comité de résidents de la rue, qui s'est adressé aux manifestants et aux manifestantes. Et ça, c'est le bout qui a été le moins retenu de la manifestation, malheureusement, mais à Sequoia, on est complet, alors voilà.
On a toujours 400 voitures à l'heure qui passent ici, les trois quarts qui sont des gens qui vont juste passer. Ça fait 8 ans qu'on a entrepris des démarches. Tout ce qu'on a gagné cette année, c'est 2 stops et un panneau 30. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà énorme vu les efforts que ça a demandé. Le résultat, ça a aussi été qu'on vient de couper les heures du brigadier scolaire au coin de la rue de Ligny et de la rue d'Aiguillon. On fait circuler une pétition pour la signer. On a quand même réussi à se faire s'inscrire notre travail dans un comité de travail dans la ville pour le réaménagement de la rue d'Aiguillon. Ce qu'on veut quand même, ça reste et ça maintient pour l'instant, on a un non catégorique, c'est interdire le virage à droite sur la rue d'Aiguillon depuis Honoré Mercier. C'est la seule solution pour que les voitures qui n'ont rien à faire dans notre rue résidentielle continuent à passer ici. Donc on veut continuer, puis on est très content que le comité populaire nous appuie parce que les résidents de la rue, on est vraiment très 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 fatigués de toutes ces voitures.
Il faut savoir qu'il y a des panneaux qui ont symboliquement été posés aux différents endroits. Alors, au coin de D'Aiguillon, à l'entrée du Faubourg, il y avait un panneau « Circulation de transit interdite, circulation locale seulement » qui a été posé sur un panneau de la ville qui, lui, disait que les camions étaient permis sur cette rue-là. Parce qu'il faut savoir que sur la rue D'Aiguillon, il y a non seulement des voitures qui passent, mais il y a aussi le 7, qui est quand même le parcours le plus achalandé de la ville de Québec, en dehors des 800-801. Et il y a aussi, évidemment, toute une série de trocs parce que...
Oui, il y en a vraiment. Beaucoup.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions parce qu'en fait, c'est énormément de débarcadères pour des commerces de la rue Saint-Jean. Il y a plusieurs stationnements qui donnent sur la rue d'Aiguillon. Donc, il faut trouver des solutions à cette situation-là. Et donc, il y a un panneau qui a été posé là. Tout comme sur l'autre site, où c'est où est-ce qu'il y avait un panneau. Ensuite, les gens sont allés au Patro Saint-Vincent-de-Paul où malheureusement, étant donné le bruit incessant sur la côte d'Abraham, surtout quand il pleut, j'ai pas ramené énormément de stock, mais quand même il y a un panneau qui a été posé là aussi qui demande l'expropriation du site du Patro Saint-Vincent-de-Paul pour faire place à des logements sociaux et à une place publique. Et on va laisser le mot de la fin à Mathieu Courcel, qui était principal porte-parole de la manifestation.
C'est un moment important que vous soyez venu aujourd'hui en bravant la pluie, le froid et tout le reste. On sera encore plus nombreux la prochaine fois. Parce que malheureusement ou heureusement, il y en aura une prochaine fois. Le fait est que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, comme ailleurs, si on ne se mobilise pas, si on n'intervient pas, si on ne se plante pas entre voisins, rien ne va arriver. Notre force réside dans notre solidarité, dans nos liens, dans notre appartenance à un milieu de vie. On va continuer à s'organiser, on va continuer à manifester, et on va l'avoir. Nos coops, la fin de la circulation de transit, et bien sûr l'expropriation du patron Saint-Vincent-de-Paul. Merci tout le monde de vous être passé aujourd'hui.
Alors voilà, c'est ce qu'on a ramené de la manifestation de samedi. Si vous allez sur notre blog, il y a une vidéo aussi, ce qu'on voit ça, tout ça en image finalement, avec d'autres trucs, une vidéo qui a été réalisée là, par François et moi-même pour l'équipe de Voix de Fait. Donc voilà, ben ça c'était pour les nouvelles strictement locales. Ceci dit, nous on a des nouvelles aussi régionales et même provinciales. Et puis là, ben là, Janie va nous parler de mineurs.
Ouais. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et le monde d'Abitibi.
C'est pas ça Côte-Nord?
Non, au Saguenay. C'est 75 travailleurs de la mine de Bière qui se situe à Saint-Honoré qui ont déclenché une grève qui ont sorti en grève depuis lundi soir. Les mineurs, ils refusent de descendre dans la mine tant que l'employeur n'aura pas réglé les problèmes relatifs à l'horaire de travail. Les travailleurs, ils dénoncent des horaires de 60 heures puis souhaitent obtenir, il y a le lien avec les BTB, le même horaire que leurs collègues de la mine d'Oyon en Val-d'Or, en BTB, qui est aussi propriété de la société IAM Gold.
J'ai regardé ton papier trop vite tantôt, je suis désolé.
Puis c'est ça, c'est selon le président du syndicat, sous terre, ce n'est pas le milieu de travail qui est sain, on parle des conditions de travail qui sont ardues, on parle des conditions de température, on parle d'efforts physiques, on parle de grâce au travail qui est aussi soutenu. Actuellement, la production de la mine, c'est maintenu par 3 employés non syndiqués. Mais moi, comment tu peux faire une mine avec 3 personnes? Ça va être moins capable.
3 employés non syndiqués?
Ouais.
Bordel.
Il y a beaucoup de machines.
Oui, j'imagine qu'ils font pas appel pis à pioche, là.
Il y a beaucoup d'informatique, puis il suffit d'un pépin ou, oups, nos 3 employés suffisent plus.
Ça, puis il y a 2 rencontres qui étaient prévues cette semaine entre le syndicat et l'employeur pour ce qui est de l'horaire de travail. Mais en même temps, le syndicat, il affirme qu'ils sont pas l'origine du débrayage, donc il m'a dit que le président indique qu'ils appuient, mais c'est pas le syndicat qui est en arrière de ça.
Une grève sauvage.
Ouais.
Oh boy, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça.
Un petit bout. Ouais. Mais la question, ces 3 ouvriers non syndiqués-là, sont-ils des cadres ou des sous-traitants?
C'est
ou...
pas précisé. Dans l'Institut des radios du Canada, on précise pas.
C'est bizarre.
Mais enfin, bon, bref, ça va être à suivre, j'imagine, parce que ça n'en restera certainement pas là. Est-ce que c'était tout pour ça?
Oui.
On a de la musique?
Oui, j'ai dépoussiéré. J'ai dépoussiéré, j'ai été chercher dans la première vague hardcore... Ouais, en Amérique du Nord. 1982, 83 à peu près. Les années Reagan, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait.
Avec 7 Seconds qui nous chantait qu'ils voulaient rester jeunes jusqu'à leur mort.
Domine exodi orationem meam. Dominus vobiscum et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez Voix de Fer.
Ah bah c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Eh bien, de retour sur les ondes de CKRL 88.3 en Québec pour notre bloc électoral à voix de fait. On s'était dit qu'on en parlerait jusqu'à la fin. Alors, on va boire la coupe jusqu'à la lie. On a reçu à la station...
On peut même en parler la semaine prochaine.
Oui, on va parler des résultats la semaine prochaine. On ne sait pas, il va peut-être avoir des surprises. Hein? Peut-être que le maire sera...
Mais c'est... Attends, je viens de penser à ça. C'est le mois des morts, novembre.
Oui.
La bouchée va peut-être être réélue.
Qui sait? Donc voilà, on a reçu... première nouvelle, bref, on a reçu à la station un communiqué. Bon, disons-le, ça vient d'un candidat indépendant, Christian Trudel, à Sainte-Foy, dans le district 11, Saint-Louis-Sillery. En fait, c'est dans le quartier Saint-Yves. Alors, pour vous placer un peu la chose, le quartier Saint-Yves, c'est le quartier à Sainte-Foy où est-ce qu'il y a des grosses batailles contre la circulation de transit. C'est l'autre quartier avec Saint-Jean-Baptiste où est-ce qu'il y a des gens qui bloquent les rues pour protester contre la circulation de transit. Faut savoir, c'est là où il y a énormément de constructions, entre autres des compagnies d'assurance qui amènent leur lot de voitures finalement et qui amènent beaucoup, beaucoup de problèmes.
Question.
Oui.
C'est là qu'ils ont eu l'étiquette pour les affiches?
Oui.
Oh.
Et donc voilà, là-bas il y a un comité de citoyens. C'est un des premiers comités de citoyens à revoir le jour après la vague là, des années 70. Et ben voilà, en pleine campagne électorale, le maire Labeaume est intervenu personnellement dans le quartier Saint-Yves pour affirmer haut et fort qu'il allait régler le problème de la circulation de transit. Vous vous en souvenez certainement, mais c'est la fois où qu'il avait fait des déclarations là, sur les automobilistes irresponsables de la Rive-Sud. Donc, il allait civiliser.
On est tellement plus développé, ça arrive, non?
Oui, et puis lui, il avait dit qu'il avait mis en place un système efficace pour assurer la sécurité des citoyens. La réalité est légèrement différente. Il y a une rue, la rue Sauvé. Il y avait eu un chantier qui avait débuté ce printemps pour modifier son tracé. Un chantier qui avait quand même piétiné pendant plusieurs mois et qui vient juste de se terminer. Et puis là, la ville vient de se rendre compte qu'elle fait face à un problème plutôt loufoque. La charrue passe pas. C'est-à-dire qu'il y a 5 fonctionnaires responsables de la circulation et du déneigement, accompagnés d'un représentant de SNC-Lavalin, qui ont constaté que la nouvelle rue, telle que redessinée, est trop étroite pour permettre le déneigement.
Ils ont juste à l'écraser comme dans le temps, la neige.
Ouais, c'est sûr que ça va régler le problème de circulation de transit pendant l'hiver, mais c'est quand même assez spécial, ça, là. En tout cas, la charrue passe pas le test, le maire non plus. Et en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un débat qui a été organisé entre tous les candidats sur la circulation de transit, débat animé par le comité de citoyens Saint-Yves, et qui a été couvert d'ailleurs, ça a été à Radio-Canada, dans Le Soleil et tout. Et la candidate de l'équipe La Bombe, Francine Lortie, ne passait pas non plus le test.
Elle passait pas dans la rue.
Non, elle a... je sais pas si... C'est bas, ça, là. Et elle a avoué en public devant l'Assemblée des citoyens qu'elle ignorait complètement le problème. C'est comme d'ailleurs...
C'est ça, elle passe pas dans la rue.
Ouais. Faut souligner que dans le district des Faubourgs, la candidate d'équipe La Bombe, qui est par ailleurs de belle qualité, elle est pour l'expropriation du site du patro, avoue elle aussi... Non, mais elle aussi avoue que la circulation de transit, c'est pas quelque chose que je connais bien, que je comprends, je vais apprendre. Alors, voilà, puis il y a d'autres affaires aussi qui ont suscité la colère dans ce quartier-là, mais c'est quand même spécial, là, finalement. Refaire faire une rue puis se rendre compte que la charrue passe.
Ah, Jesse, La Bombe, il y a rien de trop beau pour les dépenses de La Bombe, il va faire un plancher chauffant.
Oui, c'est ça. Donc voilà. Sinon, toujours avec notre chère mère, deux choses d'abord. Je sais pas si vous avez vu l'espèce de clip débile que Energy a fait.
Ouais, mais ça, c'est typiquement lâche parce qu'ils ont rien à perdre. Alors, on va profiter de la vague puis mousser notre popularité.
Ils ont fait
coup.
Ils ont fait un espèce de clip de lip dub sur YouTube. Et là, le directeur général des élections vient de dire, dans le fond, c'est une dépense électorale, il faudrait que vous le retiriez. Mais moi, ce que j'ai de la difficulté à visualiser, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai regardé le clip, est-ce que j'ai de la difficulté à me faire une tête, c'est, est-ce que c'est vraiment pro La Bombe? Parce qu'il beurre tellement épais...
Oui, il a l'air d'un gros imbécile.
Que le clip, ça fait comme... hey, à Québec, on est des caves, et c'est pour ça qu'on aime la bombe. Juste du point de départ, ouais. C'est dit, la bombe, c'est le plus meilleur maire.
Mm-hmm.
Déjà.
Puis, ouais, il y a beaucoup. Mais c'est typiquement.
Badaboum, la pyramide de Cléops.
Ouais,
le 500e l'année prochaine, en tout cas.
Il y a beaucoup de radio-énergie où je travaille qui passe, puis. En fait, c'est typiquement humour énergien, là. Genre, okay. on rigole, mais on l'aime bien au fond. Puis à la fin, c'est vers la fin du clip qu'on le voit vraiment que c'est un appui indéfectible. C'est comme, mais tu sais, c'est lui qu'on veut, là, vraiment.
En tout cas, c'est tellement gros. Remarquez, si on se fait au sondage, différentes affaires, c'est un petit peu le mood de la population actuellement. Tu sais, c'est comme, ils rient un peu, ils sont un peu critiques, mais ils vont l'appuyer pareil. Okay. C'est quand même assez particulier là-dessus.
D'ailleurs, il y a une opposition forte, mais ceux qui vont vouloir voter, ils n'iront pas voter pour l'opposition.
Ben non, ils ne voteront pas pour l'opposition, c'est pas des losers.
Mais non, quand même pas pour être contre la vie générale.
Oui, mais quand même, il y a des choses. Il y a un sondage, en fait, qui a été publié lundi, là, vous l'avez vu, là, qui dit que le maire Labeaume a un taux d'appui de 88,3%, ça c'était dans le Soleil. Puis on a beaucoup, beaucoup appuyé là-dessus. Puis on a dit, ouais, mais il y a quand même des critiques, des nuances là-dessus, puis les gens sont pas prêts à le suivre jusqu'à n'importe où. Puis ben, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même attiré mon attention, puis il me semble que ça, on l'a un peu moins souligné. En matière de populisme, Labeaume en donne plus que le client en demande. OK? Québec, c'est déjà une région quand même passablement à droite, mais il en donne tellement que le monde y trouve que ça va un peu trop loin. Puis là, on va prendre juste le cas de la fonction publique. La cause est entendue, c'est politiquement payant de casser du sucre sur le dos des fonctionnaires.
Ben, okay.
Ça, tout le monde est d'accord avec ça, et tout le monde le fait allègrement, et les radios populistes de droite le font allègrement, le maire le fait allègrement depuis son élection. Il a adopté un ton très, très dur dans les négociations avec les syndicats. Il a déjà traité les fonctionnaires de fourreurs de système. Faut le faire, là. C'est plus dur que ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Toutes les licenciés. Mais malgré des décennies de propagande populiste, il semble que le maire soit à côté du sentiment populaire dans ce dossier-là. Quand on leur a posé la question, 68% des sondés pensent que les employés municipaux méritent leur salaire et leurs conditions de travail.
La bombe et les radios de droite vont dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ont peur d'avoir de la merde avec leurs employés. »
65% des gens désapprouvent la façon de négocier du maire.
Ah non!
Le monde est peut-être un petit peu moins à droite, puis les syndicats un petit peu moins isolés qu'on aurait pu le penser. Moi, je trouve ça quand même assez phénoménal. Mais bon, après ça, on n'est pas capable d'organiser ce monde-là.
Tu as parlé du 88,3% d'appui.
Oui.
Les
gens de l'appui, mais trop, qui vont trop loin.
Ouais, mais mettons, là, ça se concrétise, ça vient ça à l'élection. Ben, partout où il y a eu des résultats électoraux au niveau national, à ce niveau-là, le Canada,
c'est une dictature
ou c'est des résultats soviétiques, est-ce qu'on va aller droit au même
petit sobriquet? On a condamné le gouvernement américain. En fin de semaine, il y a une élection en Tunisie. Le dictateur tunisien Ben Ali a été réélu en 89%.
Ben, quand? Donc, comment son nom?
Et le département d'État américain a émis des doutes sur l'élection, était très fâché. Il n'y a pas d'observateurs internationaux et c'est douteux. Alors, on pourrait se demander est-ce qu'il va y avoir des observateurs internationaux à Québec dimanche? Et puis, juste sur le sondage en question aussi, autre chose quand même assez spéciale. Il n'y a que 22% des gens qui pensent que la construction d'un nouveau Colisée et le retour d'une équipe de hockey à Québec devraient être une priorité du conseil municipal.
Ouais, mais 100% des médias, fait que les gens, on s'en fout.
75% des gens sont en désaccord avec un financement qui serait seulement public.
Ouais, mais 100% des médias est d'accord, fait que les gens, ils n'ont pas leur mot à dire.
C'est quand même phénoménal. Donc, moi, je me dis, tu sais, c'est comme 100% des médias et tout. Donc, c'est quand même pas si pire que les gens soient plus critiques qu'on pourrait le penser. Donc, il y a encore matière à espérer pour l'éternel optimiste comme moi.
Il n'y a pas de voix qui sort parce qu'ils sont étouffés par les médias.
Oui, les gens sont isolés, ils dépriment dans leur coin, mais quand même, c'est intéressant de constater qu'ils sont moins imbéciles heureux qu'on pourrait le penser. Donc, finalement, les gens sont pas cons.
Ouais.
Ben, moi, quand je vois le monde qui s'entasse dans les bus, ils sont tout le temps debout, pis ça a pas pour la bombe pareille. Ça a aimé ça pour les bus bondés.
Ouais, remarque que les bus étaient bondés aussi avec leur MQ, là, mais.
Ouais, pis que la bombe veut le double articulé d'autobus de chez
Triple
pas,
maintenant.
Attends, non.
Triple articulé. Mais non, on a dit qu'on était pas nécessairement contre.
Articulé, c'est trois.
Ouais, double articulation, t'as raison.
Ben, je comprends pas comment il peut trouver qu'un tramway peut pas fonctionner, mais un monstre de cette grosseur-là peut fonctionner.
Ben, c'est parce que le monstre de cette grosseur-là, si je mets un accident sur la route, il peut toujours faire un détour. Mais ben, ceci dit, si les charrues passent pas d'un
faire un détour avec une longue... T'as-tu déjà vu un autobus, les nouveaux bus articulés, comment c'est long? Imagine-toi.
Oui, je sais.
Encore plus long, ils feront pas de détour.
C'est un train routier. Enfin, bref, voilà pour ça. Sinon, toujours dans la question électorale, ça va probablement mettre fin à ce micro-là. Il y a la question du financement politique qui a fait couler beaucoup d'angle depuis le début de la campagne électorale municipale. Les médias font leur chou gras de ce qui se passe à Montréal, notamment. Mais pas seulement à Montréal. À un point tel que on a presque plus besoin de faire de propagande anarchiste tous les jours. Se vérifie le slogan « Tous pourris ». D'ailleurs, vous vous amuserez, vous irez voir là, les différents sites anarchistes à Montréal. Il y en a plein qui parlent de la campagne électorale municipale. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter parce que...
Ils sont capables tout seuls.
Oui, c'est ça, ils sont capables tout seuls. C'est très rigolo dans la mesure où, en parallèle à tout ça, se déroule une très vaste campagne anti-abstentionniste. On l'a vu avec les clips de la Ville de Québec.
Il y en a un paquet, le DGE, il en fait. Là,
oui,
c'est
le DGE, il en fait. Puis en plus, ils sont drôles, mais pas toujours volontairement.
Non.
En fait, c'est des clips qu'on peut voir sur YouTube. On a mis des liens sur notre blog qui tentent de faire le lien entre les politiciens et les services publics en nous disant que si on vote pas, il n'y a plus rien qui va marcher. Puis là, d'entrée de jeu, il y a des gens qui ont souligné que ce qui était représenté dans ces clips-là, ça se passait déjà actuellement à Montréal. Et pourtant, les gens allaient voter. Mais quand même, il y a ça. Ce qu'il faut dire, là... Parce qu'on revient dans toutes ces affaires. Les aqueducs, c'est la mairie. Le déneigement, c'est la mairie. Les ordures, c'est la mairie. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que depuis quelques décennies, c'est justement les élus qui ont été les pires ennemis des services publics. C'est eux qui ont coupé, puis qui ont sabré, puis qui ont fait tout ça. La Ville de Montréal, par exemple, en coupant un tour de bras dans la fonction publique, en est venue à se débarrasser de son expertise interne à un point tel qu'elle est maintenant complètement dépendante du privé, des firmes d'ingénierie notamment, pour déterminer ses politiques de renouvellement d'infrastructures. C'est rendu qu'elles sont obligées d'aller voir des cabinets d'ingénieurs, des firmes d'ingénierie, pour dire, bon, quels seraient les besoins de la Ville en termes de renouvellement d'infrastructures, parce qu'ils ont pu... Les professionnels à l'interne. Et Québec sera pas bien mieux, là. Une des idées de génie du Malabonde, c'est de se débarrasser complètement de la collecte des ordures à l'interne et de tout confier ça au privé. Et un coup que t'as tout confié ça au privé, un coup que t'es vendu, là, tes trocs, là, un coup, là, que la Ville de Québec, elle a plus de trocs, plus de bonnes ordures, elle va faire quoi face à une collision du privé?
C'est comme... tu vois tout en noir.
Non, mais on n'avait pas appris avec l'exemple du déneigement.
Tu vois tout en noir.
C'est comme, en tout cas, il me semble qu'on se tire dans le pied dans ces affaires-là. C'est ça. Tout ça, ce genre de politique-là, là, de se débarrasser de l'expertise, de faire rentrer, de tout, trop faire d'impartition, trop faire de sous-traitance, en plus de coûter plus cher que l'utilisation de la fonction publique, ça a ouvert la porte à tous les abus, comme on le voit en ce moment. Tous les abus, puis je veux dire, c'est ça, là, c'est des gros argents. Sauf que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les scandales qui s'accumulent, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et là, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, je vais citer Mario Dumont.
Ah oui, vas-y, t'es capable.
Mario Dumont, j'ai pas la clip malheureusement. Ah, Mario shit. Dumont déclarait, Mario Dumont s'est fait pogner récemment, il s'est fait questionner par le Journal de Québec en disant « Ouais, on a appris que Tony Arcuzo avait participé à des activités de financement de Mario Dumont, de l'Action démocratique du Québec. Donc vous aussi, vous êtes aussi mal pris que les autres. » Et il aurait répondu ceci aux journalistes. « Tu sais, le Parti libéral ramasse plus d'argent qu'Opération Enfant-Soleil. Je sais pas s'il y a du monde assez niaiseux pour penser que ça se ramasse à coût de 2$. Les activités qu'ils rapportent, ça vient de la communauté des affaires pour beaucoup. » Et là, ben là, c'est ça. Le problème, c'est pas juste quelques pommes pourries ici et là, parce qu'il y a des affaires légales qui se font. On l'a vu, là, on a rendu public. Le parti du maire a rendu public sa liste de donateurs. Il y a là-dessus plein de gens qui participent à des conseils d'administration qui ont donné le maximum. Tu sais, des gens qui participent à des conseils d'administration de firmes qui ont des relations d'affaires avec la ville. Mais c'est parfaitement légal, fait qu'on peut pas rien faire face à ça. Le problème, donc, c'est tout le système politique. C'est que d'un côté, les politiciens ont besoin d'argent pour faire de la politique. Puis les gens d'affaires ont besoin des contrats publics pour faire rouler la business. Fait que l'argent, comme les personnels d'ailleurs, circule à l'intérieur d'une même classe dominante. Puis, ben, c'est ça. Le vrai scandale, en fait, c'est si En transformant ça en scandale, ce qui est en fait simplement la réalité du système, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe quelques pommes pourries, quelques entrepreneurs vers eux, et Dieu sait qu'il y en a, mais on pointe pas vers la réalité concrète.
Non, on y va dans le, comme si c'était de l'individu, du cas par cas. C'est ça. On essaie d'éviter le système.
Oui, alors que c'est le système au complet. Le vrai scandale, en fait, c'est qu'en 2009, en pleine crise généralisée, que ce soit au plan économique, politique, environnemental, social, il n'y a pas de politique révolutionnaire de masse, il n'y a pas de politique antisystémique qui viendrait à casser la logique des intérêts particuliers. C'est ça qui est scandaleux. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Bon, c'est vrai, là, il y a l'UCL, il y a le reste de l'extrême gauche, mais on aurait besoin d'un petit peu de renfort pour qu'on parle de politique de masse. Enfin, bon, le vrai scandale, c'est que tout ce qui est proposé actuellement, c'est de faire très, très, très timidement le ménage, de virer quelques pourris, puis de faire un petit peu de replâtrage pour repartir de plus belle sans toucher aux privilèges des nantis.
Oui, de la réforme.
Et
de leur valet,
et sans... Ben, c'est même pas de la réforme. C'était de la réforme au moins. On parle même pas de réforme.
Ben
on
oui,
parle de cosmétique, là. On parle de passer le linge sous le comptoir. Donc, là, je voudrais finir là-dessus. Louise Arel, la candidate à la mairie de Montréal, l'opposante à Gérald Tremblay, elle a dit que seul l'argent propre pourrait chasser l'argent sale. Propre ou sale, ça reste de l'argent. Puis si on l'abolissait, l'argent... L'argent. Pas Louise Arel, l'argent.
Oui. C'est aussi elle qui sort des grandes phrases incroyablement intellectuelles comme « Je disais que ça prendrait le balai pour faire le ménage à la mairie, mais c'est bien trop gros, on va prendre la balayeuse.
» La balayeuse centrale. Mais enfin, bon.
C'est réfléchi.
Oui, c'est mais moi je me dis sérieusement... C'est, en tout cas, tant qu'on va rester dans ce système-là, on n'arrivera pas à s'en sortir.
Non.
Voilà pour moi, pour l'instant. On a de la musique?
Oui, avec ta demande spéciale, c'est
oui,
quoi?
Oui, la victoire en chantant de Corrigan Fest. J'étais assez curé que tu nous mettes tout le temps des tunes du démon.
Ouais.
Alors, je t'ai amené l'album.
Excellent.
Ça me fait du bien, la victoire en chantant, pensant aux élections municipales.
Par-delà l'océan, au pied des Pyrénées, là-bas les maquisards résistaient dans la nuit et résonnaient encore les chants des insurgés. Oh, 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 la victoire en chantant. Oh, 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 la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le bout des larmes, ignore le bout du son, n'entend pas au loin le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Si ici on a faim dans les rues de la ville, là-bas ils torturent en prison du fusil. Mais pour chacun de nous, c'est la même misère, et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes répondent à l'appel des résistants d'Espagne, venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Victoire en chantant. Oh, 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 oh. La victoire en chantant. Moscou nous a trahis et Londres abandonné, et le reste du monde le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattons sans drapeau, devenez clandestins, reste nos idéaux. Allez, pac, pac, si la nuit est tombée sur
une Europe change tant tout l'Espagne a croulé. Il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. L'avant du pas au loin, le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant.
Rebonsoir.
Rebon après-midi.
Oui, ou rebon après-midi. C'est vrai, nous sommes diffusés à deux moments dans la semaine, le mercredi 20h et le jeudi 14h.
Et en balado-diffusion.
Et en balado-diffusion sur le web. Vous allez sur notre blog, Voix de fait, avec un X et un S, .blogspot.com, et vous pourrez trouver, en fait, les fichiers MP3 de l'émission. Soit dans le fil principal, il y a l'annonce, d'habitude, le mercredi soir, des fois le jeudi dans la journée, de quelle émission est disponible sur le web. Ou sinon, vous allez dans la colonne de droite, il y a l'annonce de notre podcast. Donc, voilà, qui est hébergé par Radio for All, Radio en Info, sur le web. Donc, Québec a l'avantage de posséder encore une presse populaire qui nous donne à lire autre chose que les niaiseries habituelles de la politique spectaculaire. On vous a déjà parlé de l'Infobourg il y a deux semaines qui proposait un dossier costaud sur les élections municipales. D'ailleurs, dossier qui a été cité notamment en une du Devoir la semaine passée pour le travail fouillé sur le financement de l'équipe La Bombe. Mais il y a aussi Droit de parole qui se met de la partie. Droit de parole, c'est un journal communautaire, 35 ans de lutte populaire au centre-ville, qui est distribué, c'est un mensuel qui est distribué à 15 000 exemplaires dans les quartiers centraux, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Limoilou, Saint-Sauveur. Et il y a un texte en particulier du vétéran des luttes urbaines, Marc Boutin, qui se démarque par la réflexion un petit peu plus poussée qu'il soulève. Alors, le voici. Puis si jamais vous voulez, là, le journal est disponible à plusieurs endroits, dont à la station de radio, peut-être dans la boîte à mal de plusieurs auditeurs, mais aussi dans tout plein de centres communautaires, bibliothèque de la ville de Québec. Alors Marc, lui, il était allé au débat organisé par la ville que nous voulons, le collectif La Ville que nous voulons, sur les élections municipales. Il y avait Jean Bousquet, Winnie Fron, Véronique Laflamme et Jean Lemoine qui débattaient à l'ENAP devant une centaine de labos homophobes, mais aussi en l'absence de remarquer des deux quotidiens de Québec. Alors, selon Marc Boutin, le public a eu droit ce soir-là à un échange digne d'être apporté entre l'ex-journaliste de Radio-Canada, Régent Lemoine, et aussi ex-conseiller municipal de Saint-Roch. On parlait à l'époque du maire de Saint-Roch. Et la militante du comité populaire Saint-Jean-Baptiste, Véronique Laflamme, qui est maintenant la permanence nationale du Frappru. Alors, pour Régent Lemoine, seuls les politiciens peuvent agir. Et si on ne fait pas le saut dans l'arène de la politique, là où on peut espérer un jour exercer le pouvoir, dans le cas qui nous occupe au Conseil de ville de Québec, on risque en tant que société de rater le bateau du changement. C'est là qu'on peut agir sur son milieu de vie. Le message à peine voilé de Lemoine, la grosse têteuse et l'amicale des mécontents ont beau se plaindre, gémir et critiquer, si elles choisissent de gueuler à partir des gradins, elles laissent la glace à d'autres. Leurs efforts, si louables soient-ils, auront comme effet de laisser à la droite tout le loisir de changer les choses à sa guise. De l'autre côté, pour Véronique Laflamme, il n'y a rien à espérer des politiciens. L'ex-animatrice du comité populaire Saint-Jean-Baptiste pense que c'est le politique qui doit encadrer nos efforts militants par le politique. Elle entend la prise en charge de son milieu de vie sur la base d'une démocratie directe qui est exercée dans le cadre d'un groupe populaire autonome, donc de rapport de force. Même si, en agissant en dehors des cadres de l'État, on n'a pas directement accès au levier de pouvoir, l'histoire nous enseigne qu'aucun politicien ou parti au pouvoir ne peut résister à la pression d'un groupe assez nombreux de citoyens éclairés qui savent ce qu'ils veulent. Et pour illustrer son propos, Régent Lemoine, lui, donnait l'exemple de l'auditorium de l'ENAP en Basse-Ville. Donc, ici même où nous sommes assis, rappelait-il, si Winnie Fromm et lui-même n'avaient pas siégé au Conseil de ville en 1990 à la place de cette grande salle publique et de l'Université du Québec, on aurait une autoroute à six voies, quelques gratte-ciels et un centre commercial quelconque. Mais Véronique Laflamme n'était pas d'accord avec ça. Pour elle, ce sont les citoyens de la rue Saint-Gabriel et ceux qui vont bientôt occuper l'îlot Berthelot qui donnent l'exemple à suivre. Les premiers ont réussi à conserver toutes les maisons de leur rue malgré la volonté politique de la ville de les remplacer par une autoroute. Et les seconds ont réussi à créer une coopérative d'habitation, l'Escalier, sur le terrain le plus convoité en ville à partir de leur propre initiative et par une action qui se situait en dehors de tout parti politique. Marc Boutin, il refuse de trancher, contrairement à nous. À voix de fait, on trancherait sur cette question-là. Mais lui, il pose la question de la dialectique. Pour lui, la réalité se situe quelque part entre ces deux pôles-là. Il y a le rapport entre le politique et la politique ne serait... serait en fait, selon lui, dialectique. D'un côté, si le comité des citoyens et citoyennes de l'R10 dans Saint-Roch n'avait pas d'abord mis la table en luttant maison par maison pendant plus de 10 ans contre la destruction du quartier chinois de Saint-Roch, l'autoroute de la Falaise aurait ravagé le cœur du quartier bien longtemps avant que Régent Lemoine ou Winnie Fromm aient eu la chance de voter sur le sujet au conseil de ville. Mais en revanche, sans l'achat de l'îlot Berthelot par la Ville de Québec au prix de 1 million quand même, achat décidé à l'exécutif et au conseil de ville sur recommandation et avec l'appui du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, la réalisation de la coop L'Escalier n'aurait jamais été possible 10 ans plus tard. Donc on pourrait dire que ce soir-là, à l'ENAP, les deux invités avaient raison, mais qui présentaient chacun la réalité par le petit bout de la lorgnette. N'empêche, c'est des débats qu'on retrouve dans le droit de parole et qu'on retrouve évidemment pas dans Le Soleil, dans le Journal de Québec, où ces perspectives-là sont complètement ignorées.
C'est trop compliqué.
C'est bien trop compliqué. Pourtant, il a réussi à faire ça en quoi, 600 mots?
Mais c'est pas vendeur. Il y a même pas de photo des crapauds.
Non, il y a pas de photo des crapauds. Il y a une photo de chantier en place. Juste en passant, des définitions, Marc Boutin, il dit que le politique, c'est l'art de se mêler directement des affaires de la cité dans le cadre de la société civile et sur la base de sa libre citoyenneté, en dehors des rivalités électorales et des joutes parlementaire, tandis que la politique, c'est l'art d'exercer le pouvoir dans le cadre de la société d'État et sur la base de la démocratie représentative en participant aux rivalités électorales et aux joutes parlementaires. Alors ça, vous pouvez lire ça dans Droit de parole. Droit de parole qui est distribué, comme je le disais, 15 000 exemplaires dans les quartiers centraux. Il y a aussi plusieurs autres textes dans notre journal communautaire presque préféré. Bon, pour des raisons évidentes, il est presque dans mon cas, mais peut-être que d'autres le préfèrent à l'infobourg, mais bon, ça, c'est comment je dirais, c'est... je presse pour ma paroisse. Donc voilà, on trouve, entre autres, on revient sur la question du 20e anniversaire du projet d'intervention prostitution Québec, et on parle beaucoup, en fait, de la question de la prostitution puis de la drogue dans les premières pages, l'itinérance, 40e de Carrefour Tiers-Monde aussi. Il y a une nouvelle chronique dont c'est la deuxième installation, cette fois-ci sur les médias, et où on présente cette fois-ci le mensuel satirique Le Couac. On retrouve 4 pages d'opinion sur les élections municipales, sur la politique municipale, dont entre autres le texte de Marc Boutin, qui est à mon avis de loin le plus intéressant du lot. Et aussi, ben, un de ces textes là qui fait le tour des partis qui se présentent. C'est, mettons, c'est le côté un peu plus journalistique. Sinon, il y a notre camarade Stéphane Nicolas qui fait une critique vitriolique de la campagne électorale, notamment en présentant la candidature de Jeff Filion comme une vraie tartufferie et en critiquant sévèrement, finalement, les mouvements sociaux qui osent pas s'opposer frontalement à la politique qui se fait en ce moment dans la ville. Il y a la Coalition pour le droit au logement qui propose un 4 pages sur, roulement de tambour, le droit au logement. mais il touche quand même à l'aménagement urbain. C'est intéressant pour savoir où en sont les comités de citoyens et les groupes populaires face à la ville sur la question de l'habitation. C'est relativement bien. Et sinon, ben, c'est le reste des préoccupations habituelles du journal Droit de parole, l'écologie urbaine, quelques critiques de livres, un peu de culture populaire. Et évidemment, le calendrier populaire qui nous annonce les prochaines activités à venir à Québec du côté du mouvement communautaire et d'ailleurs ben c'est ça, il y a même une belle publicité pour le calendrier des luttes sociales dont on vous a pas encore parlé, dont on aura sûrement l'occasion d'y revenir à voix de fait. Le calendrier qui est disponible notamment à la page noire. Est-ce que j'ai le temps de parler des nouveaux cahiers du socialisme?
Mais bien sûr.
Alors depuis la fin septembre, en fait, officiellement, c'est en librairie le 29 septembre 2009, mais ça vient d'arriver dans ma boîte à mal, fait que j'ai pas pu vraiment en parler avant. Il y a la deuxième édition, le deuxième numéro des Nouveaux Cahiers du Socialisme qui est sorti. Les Nouveaux Cahiers du Socialisme, c'est une revue politique, dans la plus pure tradition des revues d'idées, là, c'est-à-dire que ça se présente sous forme d'un bouquin de 350 pages qui est apparu le printemps dernier. On avait parlé du numéro 1 à l'émission. Donc voilà, c'est c'est un collectif, le collectif d'analyse politique qui rassemble plusieurs jeunes auteurs et des vétérans. En fait, c'est essentiellement des marxistes avec quelques de plusieurs tendances qui se sont regroupés, surtout des intellectuels universitaires, mais aussi des militants syndicaux qui se sont regroupés pour former un groupe qui va réfléchir un peu plus en profondeur et qui ne s'attardera pas seulement à faire de la propagande pour ses idées, mais va essayer d'avoir une démarche un peu plus critique ou sociologique ou théorique de recherche, en fait, sur les questions. Et entre autres activités, ils organisent des assemblées, des débats, des panels, des colloques, ce genre d'affaires-là, des cercles de lecture, tout ça. Mais ils ont une revue, qui sont les Nouveaux Cahiers du Socialisme. Pourquoi nouveau? Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà eu une revue qui émanait de l'UQAM à la fin des années 70 jusqu'à dans le milieu des années 80 qui s'appelait les Cahiers du Socialisme. Et donc, les Nouveaux Cahiers du Socialisme, c'est la revue du comité collectif d'analyse politique qui est disponible maintenant dans toutes les librairies. Le numéro 2 porte sur, s'intitule « Leur crise ». Et bien là, il y a plusieurs sections là-dedans. Il y a, on parle évidemment de la crise économique qui sévit actuellement, mais on essaie de la lier aussi avec un ensemble d'autres crises qui ont cours. Et on va chercher plusieurs éléments d'analyse, des entrevues avec des économistes réputés, des philosophes, des politologues d'extrême gauche un peu partout dans le monde, et on questionne en fait l'analyse qu'ont les classes dominantes de la crise, quelles seront les sorties de crise qui vont être proposées par les classes dominantes, comment est-ce que les classes populaires vont manger la claque avec ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de moins manger la claque, est-ce que ça peut présenter des opportunités. Déjà en introduction, on nous dit que qu'en mandarin, le pictogramme crise, c'est un pictogramme double qui dont le premier pictogramme signifie destruction, mais le deuxième pictogramme signifie opportunité. Et eux, ils disent que dans une crise, il y a aussi l'opportunité d'aller vers d'autres choses. Et on ne sait pas vers où va s'en aller le capitalisme, mais on sait que ça offre toujours des possibilités de rupture, et eux, ce qui questionnent et ce qu'ils cherchent, en fait, c'est les possibilités de rupture. Et la revue existe notamment pour voir est-ce qu'il y a une possibilité de sortie du capitalisme, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller plus loin que ça. Donc, on questionne la crise, on questionne la crise dans le monde, on questionne la crise au Canada, on questionne la crise face au mouvement populaire, et voilà. Et sinon, la revue aussi, il y a toujours d'autres rubriques qui sont récurrentes, dont une rubrique mouvement qui est super intéressante. Retour sur les luttes, je ne me souviens plus du titre de la rubrique exactement, mais enfin, elle porte en fait sur des retours sur les luttes sociales. Ce numéro-ci, malheureusement, c'est strictement syndical. Mais on revient sur la grève des profs à l'UQAM.
C'est un peu dans leur optique, non? La première, c'était pas les mouvements populaires. C'était quoi déjà? Il y avait une thématique.
Oui, il y a une thématique à chaque numéro. Ce numéro-ci, c'est sur la crise. C'est le numéro précédent, c'est sur d'autres choses. Puis le prochain, ça va être sur l'État et les comptes pouvoirs. Le suivant, ça va être sur la question femmes, les questions de genre. Mais dans leur rubrique de lutte, là, ils essaient de faire des analyses des luttes, qu'elles soient victorieuses ou pas, et ils essaient finalement que ça serve de leçon, en fait. Puis cette fois-ci, il y a des analyses plutôt générales auxquelles on est habitué sur le mouvement syndical en général dans le contexte de crise, dans le contexte des négociations du secteur public, comment il va s'en tirer. Ça, moi, personnellement, ça m'intéresse un peu moins dans la mesure où je n'ai lu pas mal. Par contre, ce que j'ai aimé lire plus, c'est trois cas de grève récentes, deux victorieuses, une perdue. La première, les profs à l'UQAM, comment est-ce qu'ils ont réussi à dépasser leur corporatisme et réussir à obtenir des trucs qui sont des victoires pour toute la communauté universitaire, et comment est-ce que finalement cette grève-là, qui ne sentait pas puis qui ne voulait pas nécessairement faire, a fini par amener une relève syndicale puis un renouveau du syndicalisme enseignant à l'UQAM. Ils ont quand même gagné 145 nouveaux profs. L'embauche de 145 profs, c'est pas banal, là. Ça implique un refinancement important dans un contexte de crise. Ils ont gagné d'autres choses aussi. Ils ont gagné des augmentations de salaire qui vont les ramener au niveau des profs de l'UQTA. Et ils se sont alliés avec les étudiants. Les étudiants sont tombés en grève aussi, ce qui a permis les levées de cours effectives. et tout et tout. Donc ça, c'est intéressant. On est revenu aussi sur la grève de York, qui a fini par une loi spéciale en Ontario, et où là, par contre, ils ont complètement mangé leur claque. Et bon, c'est beaucoup dans le milieu universitaire, mais quand même, il y a un jeune auteur qui revient sur la grève du Holiday Inn à Longueuil, qui a duré presque un an, et qui touche des femmes de chambre et des... Et puis lui, il questionne les limites du syndicalisme. Il dit la Fédération du commerce de la CSN a développé des nouvelles tactiques super intéressantes qui augmentent notre rapport de force. Mais bon, dans ce contexte-là, tu sais, on est tout seul face à une multinationale. Comment est-ce qu'on va réussir? Ils ont réussi. Ils ont gagné. Le texte a été écrit avant qu'ils gagnent, fait qu'il est un peu pessimiste. Mais c'est intéressant, tu sais, de voir quand même... Je veux dire, c'est pas... Sérieusement, c'est rare là, qu'on entend le trésorier d'un syndicat dans un hôtel qui vient nous raconter comment ils se sont battus puis qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Fait que ça c'est vraiment intéressant. Puis ben, il y a des notes de lecture puis tout plein d'autres affaires là. Bref, c'est à voir. Et fait à noter aussi pour terminer, le collectif d'analyse politique s'était lancé là-dedans tout seul pour le numéro 1 avec l'appui. Je saurais dire si c'était tacite ou pas, de l'Université d'Ottawa, parce qu'il y a des profs de l'Université d'Ottawa qui sont, Pierre Baudette entre autres, puis d'autres qui sont dans le collectif d'analyse politique et qui sont à la revue. Donc quand tu recevais la revue, c'était avec le papier en tête de l'Université d'Ottawa. mais là, ils se sont alliés avec les éditions Éco-Société, et pour eux, ils disent que c'est une façon de se solidariser avec Éco-Société dans un contexte où ils sont victimes d'une slap.
C'est vrai, ils sont encore pris avec ça.
Oui, ils sont encore pris avec ça malgré l'adoption d'une loi. Puis là, il va falloir voir comment ça va débloquer tout ça. Mais eux, ils disent, nous, on fait confiance à Éco-Société pour être capable de s'en tirer. Puis Éco-Société, donc, reprend le travail de mise en page, le travail de diffusion dans les librairies, puis de gestion des abonnements et tout, fait une partie du travail éditorial normal d'un éditeur, mais le collectif d'analyse politique garde complètement le contrôle sur le choix des textes, des thèmes, la révision typographique et une partie de la révision. Donc, c'est comme une espèce de partage. Chacun garde son autonomie éditoriale.
On revient avec le mot crise. Éco-société est en crise. L'autre collectif a vu des opportunités.
Je sais pas. mais ils se mettent ensemble pour essayer de faire quelque chose. C'est intéressant qu'une revue s'allie avec un éditeur parce qu'il faut savoir que... C'est pas facile pour un éditeur. Là. Des fois, il y a des numéros qui marchent bien, des numéros qui marchent moins bien. Puis pour un collectif de revues, c'est pas facile non plus d'être pogné avec un éditeur parce que c'est perdre le contrôle sur une partie là, de la diffusion et tout. Mais en même temps, on espère que tout le monde va s'en sortir renforcé. À tout le moins, pour l'instant, la revue est disponible dans les bonnes librairies, comme tous les livres d'éco-société. Vous allez pouvoir trouver ça facilement dans n'importe quelle librairie de fonds à Québec au coût de 20$ quand même. Mais c'est un livre de 350 pages.
Ah, c'est pas cher. Hein.
Non,
c'est
pour un bouquin.
Pour la qualité du bouquin. Hein.
C'est ça. Il y avait une chose que je voulais. Il y a une chose que je comprends pas, par contre, symboliquement. Là. Ça s'appelle Les Nouveaux Cahiers du Socialisme. Et à chaque numéro, ils te sortent une peinture des années 20. Dans ce cas-ci, c'est un poster tiré d'une anthologie de posters bolcheviques, genre 1926. C'est un banquier qui est dans. C'est un banquier qui est une espèce de porc pris dans une toile d'araignée qui nage dans une auge de pièces d'or, je sais pas trop, en tout cas. Puis c'est comme, genre, pour montrer le banquier avec haute forme et tout, là. Je sais pas, j'imagine que c'est un peu de l'autodérision, mais en même temps, c'est pas très nouveau. Disons.
Ouais.
Donc voilà, je vous invite à acheter un œil là-dessus. Ils ont un site web où il y a une partie des textes du premier numéro qui sont disponibles et des trucs là. Les trois rubriques, c'est bilan des luttes, perspectives et les fiches de lecture. La revue est publiée deux fois par année. Ils ont un site web. Je pense que c'est nouveaucahiersdusocialisme.org ou cap.qc.edu. T'as les deux sites qui sont disponibles. Si vous allez sur le site d'Éco-Société, en fait, faites Google, nouveau cahier du socialisme, puis vous allez tomber dessus, là. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Puis, écoutez, c'est rare qu'il y ait de la réflexion critique réelle qui se fait au Québec. L'immense majorité du temps, c'est strictement de la propagande. Ça a du bon, la propagande, mais c'est le fun aussi de pouvoir aller plus loin que ça.
Effectivement.
C'est ce qui met fin à cette édition de Voix de Fiche. J'imagine qu'on va aller en musique et qu'après ça, on va vous laisser avec Morpheus.
Oui.
C'était Nicolas.
Jeannie.
Mais Farouko qui vous dit on va finir ça avec Webster. Elle Land. On va s'en aller avec la même pièce qu'on est parti, sauf que. On va y aller avec des paroles aussi. Ah.
Nigga, rien de nouveau sous le sol. Les knives, les battes de base, no claques, ce swing le Wilson. C'est plat, mais c'est comme d'hab, les gars qui plottent. Prends le cash, je veux des slots, je veux rétro bad, je veux des cops et des coupables. Si j'ai rien de criminel, mais j'habite la zone grisâtre. Toute la ligne est bien aimable, t'embrouillé de manière bizarre. Tout ce que je dis est vrai, si je mens, allez, dis-moi. Beaucoup de thieves around, je boirais bien klepto bismol. Et puis les kids se sont détournés de Sesame Street. La jeune beaucoup de pression depuis que quelques de Sesame Street. Un virus dans le district se propage tel le streptocoque. De moins en moins artistique, naïve, les streptocoques. On m'appelle Web l'observateur, celui qui garde le même hip-hop. La police met bien la porte pour ce qui dénonce problème hip-hop. C'est trop dommage qu'en 2007, c'est plus de clash et de succès. Les gens en face, c'est les oranges, plus on se bâche pour au mieux c'est. J'suis sorry, mais c'est ça. La réalité frappe comme un coup de patte, c'est mis sur ça, c'est confortable. God me sauce, each time c'est les remarques, couche au bout de side de la médaille. Dès que tu rentres dans les détails, c'est qui te coupe le temps d'antenne. C'est ta mère, t'as raison, et plus de mère, Teresa. C'est t'en perdre la raison, ce qu'ils ont pu faire comme trahison. Meurtre à coup de pierre, fin de guette, la cargaison. En zone, son meurtre avec une couverte, c'est le camouflé en pavaison. Histoire de fake suicide, et de vieilles putes sous les salles qui arpentent la troisième ave pour se mettre des suicides. C'est une histoire de love entre le junkie et sa pipe.
Watch out, on sort la 24!
Jean-Pierre Grenier de Mission 2080. CKIA pour moi, c'est une station qui n'a pas peur de diffuser des musiques moins populaires, plus marginales.